Bonsoir à tous. Bonsoir Ali Ben Makhlouf.
Bonsoir.
Nous sommes absolument ravis de vous recevoir. Vous venez ce soir donc nous présenter votre dernier livre paru aux éditions Albin Michel, un livre donc sur la conversation comme manière de vivre. Alors, je vais faire une présentation assez brève pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie à Paris-Est Créteil. Et vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France. Alors, on pourrait éventuellement, peut-être de manière grossière, diviser votre travail en trois zones. Vous êtes un passionné de littérature, notamment, vous avez signé une très belle étude sur Montaigne aux éditions Belles Lettres. Vous êtes aussi un grand amateur de Flaubert, de Lewis Carroll, on va en parler tout au long de la soirée. Vous êtes avant tout, même je pense, spécialiste de philosophie logique. Et à cet égard, vous avez signé différents ouvrages sur Bertrand Russell ou sur Frege, que l'on trouve aussi. Il y a eu plusieurs ouvrages, notamment chez Puf, chez Vrin, chez Ellipse. Et vous êtes également, on vous connaît peut-être un peu mieux pour ça, spécialiste des philosophes arabes. Vous avez écrit une excellente biographie d'Averroès, qui est disponible aux éditions Perrin, dans la collection Tempus. Et vous aviez sorti chez Albin Michel, il y a peut-être 2 ans de cela, un livre absolument passionnant sur les philosophes arabes. Pourquoi lire les philosophes arabes? Donc je pense qu'effectivement, le public vous connaît un petit peu mieux sur ces questions-là. Or, quand on vous connaît un peu plus précisément, on se rend compte qu'effectivement, il y a différentes passions qui coexistent chez vous. Et vous aimez, de ce fait, signer des ouvrages transversaux, un petit peu comme celui-ci dont on va parler ce soir. Vous aviez notamment écrit un ouvrage sur l'identité aux éditions Puf. Dont on pourrait faire aussi un parallèle dans la construction avec celui-ci sur la conversation, puisque là également, vous alliez piocher chez certains philosophes et certains littérateurs que vous aimez beaucoup, des notions de compréhension, d'analyse, d'érudition autour donc, de la thématique de l'identité. Donc, vous venez ce soir, un petit peu dans le même esprit de transversalité, nous présenter donc un livre sur la conversation. Alors, c'est vrai que quand on vous connaît comme ça un petit peu de loin, on pourrait s'en étonner, on pourrait se demander pourquoi un livre sur la conversation. Mais à la lumière de ce que je viens de dire, ça en est un petit peu moins étonnant. Il y a effectivement dans ce livre, on a presque même l'impression que vous vous êtes fait plaisir puisqu'on y retrouve les gens, les personnes, les auteurs, les thématiques qui vous plaisent réellement. Alors, il va être beaucoup question de Montaigne. Il va être aussi question donc de Lewis Carroll avec son roman Alice au pays des merveilles, de Flaubert, de philosophie arabe. Et la trame en est extrêmement riche, avec une très belle érudition. Il est question aussi de Roland Barthes. Enfin, vous analysez vraiment la conversation sous ses différents aspects et toujours, parce que je sens qu'il y a toujours ça derrière vous, avec une visée humaniste, avec quelque chose où il y a une véritable utilité, il y a un véritable sens à cela. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, en fait, elle est très très simple. À la lumière de ce que je viens de dire, comment vous est venue cette idée d'écrire un ouvrage sur l'art de la conversation? On va le découvrir. Ça nous amène à penser énormément de choses, le lien avec la parole, le lien avec l'autre. Mais comment est née cette idée? Est-ce que c'est une idée qui vous anime depuis longtemps?
Oui, merci beaucoup. Merci de votre introduction et de cette invitation. L'idée, elle m'a accompagnée pendant longtemps parce que, comme vous l'avez dit à un moment Je suis très engagé dans la philosophie de la logique. Alors, qui dit logique dit tout de même un intérêt particulier pour les actes de langage. Et parmi les actes de langage, il y a la conversation. Donc, je m'étais beaucoup occupé de d'autres types de discours comme la démonstration en logique. Et la conversation est aussi un objet, si vous voulez, de mon intérêt pour le langage. Au-delà même, je dirais, de tout ce qui est proprement anthropologique, relatif à l'homme, etc. Donc, la question du langage dans son rapport, j'allais dire, au cosmos, mais surtout comme cri animal, tout le rapport à ce que les animaux ont un langage. Et donc, c'est une inscription beaucoup plus vaste qu'une question anthropologique. Mais j'ai couplé dans ce livre à la fois l'aspect philosophie du langage en général et l'aspect proprement anthropologique. Et je reprends votre expression du lien. Effectivement, je suis parti de Montaigne avec lequel je converse, si je puis dire, depuis longtemps. Et il y a deux points qui m'ont beaucoup interpellé dans son ouvrage, les essais. C'est un... le fait qu'ils disent que nous tenons les uns aux autres par la parole, indiquant par cela qu'il y a une forme de sincérité qui est au principe même de la connexion humaine, de l'interdépendance humaine. Nous tenons les uns aux autres par la parole, donc il y a, si vous voulez, cette... nos vies entrelacées en réseau avec les unes avec les autres. Et par ailleurs, quelque chose alors de plus propre à la conversation humaine, quand il dit que la parole appartient moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute. Et ce point a été pour moi essentiel parce que ça permettait de distinguer complètement la conversation des joutes verbales où l'un cherche à dominer l'autre, à distinguer complètement la conversation de la dispute dialectique indéfinie qui pèse le pour et le contre. Si précisément la parole est moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute, il va y avoir véritablement l'aspect bâton, une parole à bâton rompu. Lui-même ne cesse de dire dans les essais qu'il parle comme, au papier comme au premier qu'il rencontre. Et que s'il n'avait pas eu ce drame tragique d'avoir perdu son ami Étienne de la Boétie, il aurait bien plus converti son livre « Les essais » en conversation avec son ami. Et c'est, les essais, c'est le deuil de l'ami via le deuil d'une parole adressée à l'ami. Et effectivement, voilà, ces premiers éléments, si vous voulez, qui m'ont lancé dans cet écrit. Et il y a un second aspect qui explique le sous-titre « La conversation comme manière de vivre ». J'ai été très engagé dans les débats et les avis que nous rendions aux législateurs en tant que membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. J'ai été membre 8 ans, c'est le maximum qu'on puisse faire. Et j'ai quitté en mars dernier. Et là, j'avais coordonné un avis sur le don d'organes. Alors là, je vais arriver à quelque chose de vital. Et dans le don d'organes, je ne sais pas si vous savez, la loi Kayave de 1976, qui est régulièrement reconduite, indique que pour le prélèvement post-mortem, il y a un dialogue qui se fait avec la famille et les proches. Donc là, on est à la conversation véritablement comme une épreuve. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose de mondain. Je reviendrai sur la manière dont j'écarte tout l'aspect mondain. Mais là, les coordinatrices, c'est souvent des femmes, au prélèvement, interrogent les proches, non pas sur leur propre volonté de céder un organe de leurs proches défunts, mais est-ce qu'ils ont une idée de ce que la personne défunte aurait fait en pareille circonstance si elle n'a pas laissé d'instruction. Et donc, la conversation se met en place pour essayer, en quelque sorte, de retracer le biographique de la personne au gré du dialogue avec la coordinatrice. Et donc, c'est une conversation vitale. C'est un chapitre que j'intitule « La conversation vitale » parce que beaucoup de choses ressortent. Les personnes sont dans le choc de la perte, souvent brutale, d'une personne proche. C'est souvent un accident de la circulation. Et là, la conversation va permettre à la fois que le deuil ne s'exacerbe pas en affect très troublant, et de permettre en même temps ce lien de solidarité par le don d'organes. Et je trouve dernièrement, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dernièrement, il y a eu toute une discussion au Parlement pour dire, mais ma foi, ce moment de dialogue est informel, la loi suffit. La loi dit que si personne ne s'est inscrit sur le registre du refus ouvert à tout un chacun dès l'âge de 13 ans, eh bien nous sommes tous donneurs à notre mort. Et est-ce qu'il ne faut pas appliquer ça automatiquement ? Et en fait, non, parce que c'est quand même ce moment de dialogue et de conversation est très important, parce que ça humanise complètement le prélèvement, ça humanise la transplantation, ça humanise, ça permet au deuil de... Il est toujours tragique, mais je dis juste de ne pas trop exacerber les affects. Et il me semble que cet aspect informel qui maintenant, depuis 40 ans, a permis tout de même de faire plusieurs greffes, était important. Donc, si vous voulez, la conversation comme manière de vivre, je cite quelque chose de radical, ici, l'épreuve de la mort et l'épreuve du don, pour indiquer que ça a été aussi, avec Montaigne, quelque chose qui a guidé les autres aspects que j'ai développés de la conversation.
Alors justement, à propos de Montaigne, donc c'est vrai que c'est un petit peu l'un des piliers centraux de votre livre. Montaigne qui a écrit ses essais un petit peu comme s'il voulait mettre une forme d'oralité par écrit. Et pourtant, il a pu être critiqué pour ça, pour peut-être un manque de cohérence, un manque de profondeur. En quoi justement Montaigne marque peut-être d'une certaine manière une espèce de révolution dans cette conversation qui s'affiche par écrit?
Alors effectivement, vous avez prononcé le mot qui fait effectivement la charpente de mon ouvrage, l'oralité, c'est-à-dire que je me suis intéressé à tous les écrivains oraux, je les appelle les écrivains oraux. Ce sont des écrivains qui essayent d'écrire de telle manière à ce qu'on sente le parler de bouche derrière l'écrit, c'est-à-dire qu'on remonte du papier à la bouche. Et Montaigne est véritablement un maître en l'art de conférer, le titre d'un des chapitres des essais, le chapitre 8 du livre 3. Et cette oralité se donne en partie de deux manières. D'une part, par la glorification de ce qu'on appelle l'apophthegme. Alors l'apophthegme, c'est quoi ? C'est la parole liée aux circonstances d'élocution, comme la mienne maintenant à Bordeaux, à 6 heures du soir. Ça, c'est un apophthegme. Ce n'est pas la parole figée, éternelle, stabilisée, celle des vérités scientifiques. Je n'ai absolument rien contre les vérités scientifiques, bien évidemment, mais elles ne sont pas précisément, elles n'entrent pas tout à fait dans ce cadre de l'apophthegme. Donc les paroles liées aux circonstances d'élocution de l'ici et du maintenant, lui en déploie beaucoup et il dit qu'il les cherche toujours, il préfère savoir ce que César a pu dire sous sa tente et non pas le discours officiel apprêté pour haranguer ses soldats. Donc, il y a effectivement ce souci de la parole éphémère, si je puis dire. Effectivement, on peut de ce point de vue-là. C'est peut-être pour ça que, comme le mercure qui fuit entre les mains les essais ont cette extraordinaire fluidité, sinon même humidité, dans leur verbe, en raison de la valorisation des apophthegmes d'un côté. Et il y a un autre aspect extraordinaire dans les apophthegmes, c'est ce qu'on appelle les majuscules de scansion. Alors, les majuscules de scansion, c'est quoi? C'est un des grands spécialistes de Montaigne, André Tournon, qui a longtemps enseigné à Aix-en-Provence, à l'Université d'Aix-en-Provence. Il a fait une nouvelle édition des essais de Montaigne à l'Imprimerie nationale, en disant qu'on avait, pourquoi a-t-on complètement négligé les majuscules au milieu des phrases? Et Montaigne faisait des majuscules au milieu des phrases. Alors les majuscules de scansion qui scandent, vous savez, l'intonation à l'oral, elle scande, et puis l'écrit, tous les mots sont écrits de la même façon, ça ne scande, ça refuse la scansion en quelque sorte. Et donc les majuscules de scansion, ça permettait en quelque sorte de remettre l'intonation dans l'écrit. Je pourrais vous en donner un exemple, peut-être, si Arnaud permet de le
Avec grand
lire.
plaisir.
C'est à la page 79. Il s'agit d'un roi d'Égypte qui a été pris en. Dont les enfants et l'esclave ont été pris en captivité. Et vous allez entendre le et le mais qui sont au milieu de la phrase en majuscule pour que, en quelque sorte, on ne lise pas d'un seul coup. Donc, il a été capturé, le roi d'Égypte, à la suite d'une bataille, et voyant aller sa fille réduite à l'état de servante, se tint cependant, je cite, coi et sans mot dire, les yeux fichés en terre, et voyant tantôt qu'on menait son fils à la mort, se maintint en cette même contenance. Mais, qu'ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et menait un deuil extrême. Et voilà, si vous voulez, comment matériellement vous avez de l'oralité qui se fait dans le texte. Les apophthegmes, les majuscules de scansion, il y a plusieurs autres phénomènes chez Montaigne qui insistent sur cette forme d'oralité.
On peut se dire aussi que c'était d'ailleurs surtout une sorte de voix quasi philosophique, justement un effet de conversation, comme vous dites à un moment dans votre ouvrage, pour alimenter le doute et non pas pour être certain. Ça nous rappelle
Ah oui.
aussi la voix socratique d'une certaine manière qui
Ah oui.
lui aussi usait de l'art de la conversation.
Ah oui, c'est vrai que Montaigne est très proche du Socrate de Xénophon, pas tellement le Socrate posture de Platon, et le Socrate de Xénophon est beaucoup plus proche en quelque sorte de cet aspect langagier, et à un certain moment, on lui reproche, Socrate, de faire figurer dans ses dialogues les cordonniers, les paysans, les charpentiers, et de leur parler tout le temps. Et il leur dit, mais si je ne leur parle pas, je vais précisément pas parler du juste et de l'injuste. Parce qu'en fait, en parlant à tout le monde et en parlant des artisans et aux artisans, c'est petit à petit la configuration de la cité qui se met en place. Et effectivement, Montaigne se reconnaît en cette figure de Socrate qu'il glorifie beaucoup. Il a aussi été très. Il y a des passages où il est. Comment dirais-je? On voit toute l'épreuve qu'est une conversation. Vous savez, quand il a eu la possibilité de voir des Amérindiens à la cour de Louis-IX et de Charles-IX, pardon, et ces Amérindiens, ben, ils ne pouvaient pas leur parler, mais ils voulaient leur parler. Et comment converser avec eux? Donc, il y avait le truchement d'un traducteur. Et là, véritablement, se fait un dialogue avec toute sa force de contestation oblique de la situation monarchique et sociale de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il dit, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur voyage en France. Et puis, parmi ce qu'ils m'ont dit, dit-il, ils m'ont dit que eux se considéraient moitié les uns des autres et ils ne comprenaient pas comment, dans nos villes, les gens sont gorgés de nécessités, certains sont gorgés de commodités et d'autres, eh bien, sont à leur porte complètement sans moyens. Et il joue sur le mot gorge et il dit comment des gens gorgés de nécessités ne sont pas pris à la gorge par des nécessiteux. Bon, c'est un petit peu hard, mais c'est Montaigne dans ce côté subversif qu'il fait dire par les autres ce que lui-même observe, bien évidemment. Et il dit qu'en même temps, dans ce dialogue avec eux, dans cette conversation qui se fait beaucoup par les gestes parce qu'ils ne se comprennent pas, le traducteur ne suit pas ses imaginations, dit-il. Et donc, j'ai mis fin à la conversation parce que mes imaginations ont été empêchées par la sottise du traducteur. Et donc, il y a quelque chose, ça c'est très très important, comment la conversation s'arrête par des effets très très extérieurs, des aspects extérieurs de la communication, qui m'interrompt, m'arrête, dit-il. Et effectivement, on a plusieurs indications sur à la fois l'importance de cet échange, parce que comme il est imprévu et que la parole est moitié à l'un, moitié à l'autre, quelque chose surgit d'imprévisible. Et en même temps, il y a des conditions toujours aléatoires pour ce surgissement qui, dès lors qu'elles ne sont pas réunies, c'est-à-dire tenir les uns aux autres par la parole sincère, l'absence de la joute verbale indéfinie, eh bien, quand ces conditions ne sont pas remplies, la conversation se délite.
Oui, comme vous dites... La conversation est une sorte de prise de risque aussi.
Ah oui ?
Une prise de risque de la relation sociale où effectivement on ne peut pas mentir, on ne peut pas se cacher, on est dans l'art de l'instant. Il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, s'oppose au discours, oui. Tout simplement.
Enfin, oui. Oui, tout à fait. On ne peut pas avoir le confort simplement de sa mémoire pour se rappeler des choses. Il faut justement, comme la parole est moitié à l'un, moitié à l'autre, celui à qui je m'adresse me dit quelque chose et je repars sur autre chose. C'est pourquoi c'est une parole oblique et une parole à la fois, comment dirais-je, pas seulement un bâton rompu, il y a un mot qui m'échappe, mais qui va me revenir. Oui, à propos et hors de propos. À propos et hors de propos, ce n'est pas l'idée de la digression, c'est l'idée que on pensait dire quelque chose et c'est autre chose qui est venue. Au-delà du lapsus, une parole hors de propos, et très souvent on dit, bon, je vais revenir à ce que je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est ce qui vient de m'arriver d'ailleurs, à l'instant, voilà, et ça c'est le risque de la conversation complètement, c'est le risque de la conversation, voilà, on l'a mis en exergue, c'est bien.
Et s'il y a des risques de la conversation, il y a aussi des pièges de la conversation.
Ah oui.
Vous avez un chapitre intitulé « Le marché de la conversation ».
Oui.
Parce qu'effectivement, vous nous rappelez que Montaigne met en garde contre la sottise, par exemple, oui. Ou que d'autres auteurs comme Flaubert, avec, oui. avec Bouvard et Pécuchet, ou Proust aussi, ont dénoncé les excès de mondanité, voire l'absurdité aussi.
C'est vrai.
Parce que quand on pense à conversation, on pense peut-être avant et surtout à une sorte de bavardage un peu informe. Et c'est lié aussi directement aux sophistes, déjà, dont Socrate se méfiait.
C'est vrai, c'est vrai. Parlons de Proust, puis on a parlé pas mal de Montaigne. Proust, il n'aimait pas la conversation, mais le paradoxe, c'est que c'est des conversations mondaines et de salon et dans les milieux aristocratiques qui ont fait complètement la recherche du temps perdu. Et donc, la conversation devient un matériau romanesque et en même temps, il montre son caractère, oui, très, très, très vain, en quelque sorte. Les aristocrates, dit-il, Monsieur de Charlus, la duchesse de Guermantes, ne veulent jamais arrêter une conversation parce que c'est une manière d'entretenir, dit-il, leur vanité. Bon, il va très loin, mais le peuple n'est pas en reste, si je puis dire. Il y a un très très joli passage où, pendant la Première Guerre mondiale, on se met à lire les journaux. Mais le problème, c'est que lire les journaux, si on n'a pas les mots que l'on connaît, eh bien, quand on les découvre écrits, ce n'est pas comme quand on les entend. Et donc, il y a le liftier qui veut dire à Françoise, la femme de ménage, que la France a mené une bataille. Alors, au lieu de dire de grande envergure, lui, il ne connaît pas le mot envergure, et il lit envergure. Il lit envergure. Alors, je vais vous lire ce passage parce que c'est assez, assez drôle. C'est la page 89. La guerre, dit Proust, la guerre avait jeté sur le marché de la conversation des gens du peuple une quantité de termes dont ils n'avaient pas fait connaissance, dont ils n'avaient fait la connaissance que par les yeux, par la lecture des journaux, et dont, par conséquent, ils ignoraient la prononciation. Ainsi en va-t-il du mot « envergure » lu par le maître d'hôtel de Combray, « envergure » et mis en conversation avec Françoise, donc la femme de ménage. Alors, le narrateur aura beau insister pour informer les deux employés ici de la bonne prononciation, rien n'y fera. Alors là, non, rien. Pourquoi ? Car il devait se greffer sur cette erreur de prononciation une forme d'esprit faux. Le maître d'hôtel, je cite, « tenait de la déclaration des droits de l'homme le droit de prononcer envergure en toute indépendance et de ne pas se laisser commander sur un poids qui ne faisait pas partie de son service. » Alors ça, je trouve que voilà, je fais bien mon service, mais j'ai le droit de dire envergure, vous n'avez rien à me dire. Et donc, c'est extraordinaire comment, justement, ce marché de la conversation entre l'expression est péjorative chez Proust, entre le maître d'hôtel et Françoise, devient un matériau extraordinaire parce que ça donne lieu à une rectification qui est refusée, voilà même les droits de l'homme qui sont engagés, et une faute de grammaire n'est pas une faute de service. Zut, voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un autre passage que je ne cite pas qui est extraordinaire, c'est le marquis de Cambremer et Madame de Cambremer qui sont désargentés et qui louent leur château de Normandie aux Verdurins qui sont des arrivistes mais qui ont beaucoup d'argent. Et les Verdurins, pour les humilier un peu plus, les invitent dans leur château et ils acceptent. Et ils viennent, et il y a aussi le baron de Charlus, et monsieur de Verdurin dit au baron de Charlus, écoutez, vous êtes placé à gauche de madame Verdurin, et le marquis à droite. Alors, baron très piqué, parce que la bonne place est à la droite de la maîtresse de maison, il dit, ça n'a aucune importance ici. Alors, Proust met ici en italique pour qu'on l'entende, vous voyez ? Verdurin, piqué à son tour, s'enfonce en disant, j'ai lu dans le bottin qu'un marquis, c'était plus qu'un baron. Et c'est pourquoi le marquis est à la place de droite. Et là, le baron furieux dit, permettez, je suis baron de Charlus, mes damoiseaux de Lorraine, mes princes de Bohême. Et il aligne toute sa lignée généalogique et il ajoute cette phrase extraordinaire qui clôt un peu la conversation, il lui dit « Mais j'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. » Et ça, c'est, si vous voulez, dans la recherche, il y a tout ce jeu, à la fois de la conversation vaine, parce que assis à droite, assis à gauche, bon, on voit bien que quand même ça a ses limites, mais ça devient tout de suite des morceaux de littérature par une glorification, en quelque sorte, d'un second degré de la conversation, une conversation qui va sortir du marché de la conversation pour devenir un matériau littéraire.
Alors, il y a également une autre œuvre qui est importante à vos yeux et importante dans votre livre, qui est Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Donc là, c'est encore autre chose.
Complètement. Oui et non, pardon.
Oui et non. En tout cas, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un monde langagier à part entière. C'est-à-dire qu'effectivement... et vous le faites comprendre très très bien, le langage joue un rôle extrêmement, extrêmement important.
Ah oui, oui, c'est, alors effectivement, le monde d'Alice, c'est un monde qui, grouille, si je puis dire, de conversations polyphoniques. La première phrase, si vous vous y reportez, de ce magnifique conte de Lewis Carroll, elle se penche sur le livre que lit sa sœur et elle dit combien c'est ennuyeux un livre qui ne contient ni illustration ni conversation. Et en fait, tout l'ouvrage de Lewis Carroll, ça va être les conversations illustrées. Vous savez qu'il y a plein d'illustrations, il veillait même à ces illustrations. Et ces conversations, c'est des conversations incroyables, parce que c'est des conversations avec la souris, le lapin, le griffon, la tortue, tout le monde animalier est présent. Je vous lis juste la manière dont j'ai pu retranscrire un peu ce point-là. C'est la page 69, tout ce qu'on entend dans ce conte. Le conte est riche de la voix des animaux, humains compris, sous toutes ses modulations et selon l'état de la conversation. La voix d'Alice, lors de ses premières métamorphoses, rendait un son rauque et singulier. La souris raconte son histoire d'une voix basse et tremblotante. La chenille interpelle Alice d'un ton de mépris. La reine s'égosille, beugle, hurle, rugit, sans cesse la même sentence qu'on lui tranche la tête, head off. Il y a encore les interruptions, les supplications, le ton maussade du loir toujours à demi endormi, les murmures d'Alice face à une duchesse dont la voix expire en voyant la reine, le gloussement du griffon, le ton indigné d'une Alice désarçonnée par les homonymies de la tortue, je reviendrai sur les homonymies de la tortue fantasque, tortue dans la voix est toujours entrecoupée de sanglots, sans oublier la petite voix perchée stridente du lapin qu'on entend tout au début. Et alors, ce monde qui grouille de tout cela m'a poussé à réfléchir, justement, c'est ce que j'ai dit à la toute première question que vous m'avez posée, que la parole au-delà de l'anthropologique, au-delà de l'humain. En réalité, une façon pour sentir la pleine matérialité des mots, sentir l'homonymie, sentir l'homophonie, sentir les assonances, eh bien, Lewis Carroll nous fait passer par le biais des animaux pour qu'on entende véritablement toute cette matérialité. Parce que nous, dans notre conversation humaine, on est toujours obnubilé par la recherche du sens. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'un tel a voulu dire? Et donc, on oublie le geste, le fait que je lève tel ou tel sourcil, le fait que ma voix remonte ou baisse, etc. Et en fait, la conversation, pour ma part, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, suppose qu'on puisse restituer tous les aspects matériels de la communication, tous les aspects extérieurs à la parole verbale. Et Lewis Carroll, effectivement, me sert beaucoup. Ça, c'est sur ce premier aspect. Il y a un autre aspect de Lewis Carroll extraordinaire, c'est comment justement, dès lors qu'on est dans la matérialité des mots, comment l'homonymie, on appelle ça quelque chose qui engendre un malentendu, en fait, pas du tout, l'homonymie relance la conversation, je dirais pas malentendu, moi je dis conversation superposée. Je vous donne un exemple. À un certain moment, on lui dit « Voulez-vous plus de thé, Alice ?» C'est la séance du thé. Alors elle est offusquée, toujours offusquée. Je reviendrai sur la perte du sang-froid qui est l'indice de la fin d'une conversation. Ne jamais perdre son sang-froid, c'est ce que dit à la fois Socrate, Montaigne, Lewis Carroll. Ne jamais perdre son sang-froid. Eh bien, elle, offusquée, on lui dit plus de thé. Elle dit « Mais comment puis-je en avoir plus puisque je n'en ai pas encore eu ?» C'est quand même terrible si on vous demande est-ce que vous voulez plus de thé qu'on ne vous avait pas servi une première fois. Vous avouez que ça vous fait un petit peu bizarre. Eh bien, on lui dit, mais vous voulez dire comment vous pouvez en avoir moins? Parce qu'on a toujours plus que rien. Alors là, effectivement, plus on joue sur plus par rapport à quelque chose qui précède, plus comme plus que rien du tout, donc plus au sens de 1 plus que 0. Et donc le sens mathématique avec le sens commun, le télescopage des deux fournit précisément une conversation. Et il y a ainsi, moi je ne suis plus à les repérer, mais il y a véritablement toute une relance par l'homonymie. Trois sœurs se trouvent bien dans le puits. Well, well, le puits en anglais se dit well. The well in the well. Alors bon, voilà, ça, comment? Alors il y a d'abord comment well? Ah ben oui, puisque elles sont dans le puits, elles s'y trouvent bien. Purpose, purpose. Le dauphin et le but. Il faut être avisé pour toujours suivre le dauphin, pour toujours suivre un but. Et ça se dit dans les deux sens. Suivez le dauphin pour ne pas vous perdre en mer et suivez le but. vous avez tortoise, la tortue. Ça se prononce comme, je l'ai dit en anglais parce que c'est la matérialité des mots. Vous voyez, c'est vraiment la matérialité des mots. Et to teach, taught us, quelqu'un qui nous enseigne quelque chose. Alors, tortoise, la tortue nous enseigne. Elle est très savante et à un certain moment, Alice lui dit, mais comment êtes-vous si savante? Elle lui dit, mais tortoise, elle est turtle, tortue de terre. Et la tortue de mer lui a tout appris. Elle lui dit, tortoise, tortoise, voilà. Et elle lui dit, mais comment se fait-il? Et tout le monde lui dit, mais c'est la palissade même. C'est comme si vous disiez A égale à A. Donc, vous voyez, c'est un tournis nous prend en quelque sorte par cette relance sans cesse de la conversation par l'homonymie. Et pour moi, cette matérialité, eh bien, précisément, c'était une façon de revenir à l'aspect, si je puis dire, premier de la conversation. Je fais état également d'un exemple qui va tout à fait dans ce sens, d'un prix Nobel de littérature, Elias Canetti, qui avait séjourné 6 mois au Maroc en 1954 et qui, à l'issue de son voyage, bien après, mais bien après, a écrit sur la base de ses notes, un ouvrage qui s'intitule Les voix de Marrakech, VOX. Alors, les voix de Marrakech, c'est extraordinaire. Il restitue complètement ce qu'il a vécu avec une justesse. Moi, je peux vous dire, moi qui connais bien Marrakech et où je m'y rends souvent, avec une justesse extraordinaire, uniquement à partir justement de ces aspects extérieurs, les voix qui sont dites sur la Jemaa el-Fna, sur la place publique. Comment les contes sont entendus, comment les gens réagissent, et comment dirais-je, la gageure, c'est d'arriver à rendre compte de tout un contexte de vie, de toute une manière de vivre, conversation comme manière de vivre, à partir de, si je puis dire, de ce fond sonore qui est loin d'être un bruit.
Alors, on pourrait dire encore beaucoup de choses de la conversation que vous analysez fort bien dans votre livre, hein, puisqu'il y a il y a aussi des chapitres, on va dire, plus philosophiques, où
Oui.
vous appuyez sur Wittgenstein, par exemple. Peut-être, j'aimerais vous interroger sur, parce que c'est votre domaine aussi de prédilection, sur les philosophes arabes. Vous parlez notamment de Al-Farabi. Là, et on peut pas aussi s'empêcher de penser aux conversations que l'on peut imaginer, ou sur lesquelles on peut effectivement fantasmer, à Bagdad au Xe siècle, sur ces échanges interreligieux.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous pourriez nous en
Ah
dire
ben
de...
écoutez, merci parce qu'effectivement, suite à l'ouvrage que j'ai écrit l'an dernier, Pourquoi lire les philosophes arabes, et où j'ai voulu indiquer qu'ils méritaient une visibilité importante, c'était surtout pour éviter, et je remercie Mounir Achati, professeur à l'Université de Bordeaux, qui m'avait effectivement interrogé sur ce livre au théâtre l'an dernier. Pourquoi lire les philosophes arabes? Pour les mêler aux autres philosophes, pas pour en faire un patrimoine réservé, limité, où en quelque sorte on va les visiter comme on va visiter une œuvre au musée, puis une fois qu'on est sorti, elle n'interagit plus avec nous-mêmes. Et donc j'ai voulu les mêler complètement. Donc Al-Farabi, Ibn Tufayl, Averroès sont présents ici parce que pour moi, on gagne à ce que on puisse les citer comme on cite tous les écrivains ou philosophes de ce qu'on appelle notre monde occidental, mais j'aime pas l'expression monde occidental. Moi, je pense qu'il y a une seule humanité Il y a une seule humanité, une seule planète, et nous sommes tous voisins les uns des autres, et nous tenons les uns aux autres par la parole, etc. Tout ce que j'ai dit déjà dans la première partie. Et donc, Al-Farabi, oui, c'est un moment privilégié, important. Voilà un monsieur qui est à la tête de l'école de logique au Xe siècle, qui traduit les œuvres d'Aristote, et il s'agit de les faire résonner à son propre public, de les mettre en contexte, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de traduire, il ne suffit pas juste de traduire et de mettre à disposition, il faut aussi parler et converser de ce que l'on fait. Et donc, il y a eu de son école des partenaires, des membres de cette école qui ont été mis en scène par un auteur qui s'appelle Tawhidi, auteur du Xe siècle, dans un ouvrage dont le titre vous fera comprendre tout ce dans quoi j'ai baigné, si je puis dire, plaisir et convivialité. Et il imagine des scènes de conversation sur des sujets importants. Et une des nuits, comme les nuits, les mille et une nuits, une des nuits philosophiques porte sur le legs aristotélicien. Est-ce que nous avons besoin de ce que Aristote a fait 15 siècles avant? Et donc la conversation se met en route. Certains, pardon, disent mais non, peut-être que c'est une logique adaptée à la langue grecque et nous avons besoin d'une autre logique adaptée à la langue arabe. Et l'école d'Al-Farabi dit non, c'est une logique universelle. Il faut distinguer la logique de la grammaire. La logique n'est pas que la logique de la grammaire. La logique, c'est une logique de la pensée. Et tout cela, qui semble très savant, est complètement mis sous une forme conversationnelle où on distingue précisément. Alors, on discute des choses très, très précises. On dit oui, mais la traduction fait peut-être tout perdre de cet Aristote. Non. Elle ne fait pas tout perdre parce qu'il y a en quelque sorte des universaux qui traversent les cultures et qui fait que finalement, pour comprendre l'autre, jusqu'à un certain degré, on projette sa propre logique jusqu'à preuve du contraire, si je puis dire. Et des philosophes contemporains ont appelé ce que je viens de dire le principe de charité ou de présomption de rationalité. Vous supposez que la personne qui vous parle ne dit pas des choses absurdes. Et si vous supposez que la personne qui vous parle ne dit pas des choses absurdes, c'est que jusqu'à un certain degré, vous partagez son contexte de vie, la conversation comme manière de vivre. Et ce geste qu'il a fait à Bagdad au Xe siècle, quelqu'un d'autre le fera au XIIe siècle, au début du XIIe siècle à Cordoue, c'est Ibn Tufayl. On ne le connaît pas beaucoup, mais Ibn Tufayl a fait un très joli conte. Vous savez, les contes, c'est comme une fontaine qui gargouille parce que c'est polyphonique, ça dit beaucoup de choses à la fois. Et donc ce conte qu'on a traduit par le philosophe autodidacte, mais qui porte le prénom du personnage principal, Hayy ibn Yaqdan, c'est extraordinaire, c'est une expérience de pensée qu'a faite Ibn Tufayl, tout à fait proche de ce que l'on a avec Lewis Carroll, vous allez tout de suite le comprendre. Voilà qu'il imagine que dans une île où il n'y a personne comme être humain, comme Alice qui se retrouve seule de son espèce parmi les animaux, eh bien, un petit enfant au berceau crie. Et une gazelle, entendant son cri, vient à sa rescousse, elle-même qui avait perdu son petit. Donc il y a comme ça, si vous voulez, comme une compensation. Elle l'élève et il vit dans cette île parmi les animaux, sans personne de son espèce. Donc c'est une expérience de pensée très intéressante. Jusqu'aux trois quarts de l'ouvrage, il est seul de son espèce. C'est incroyable, être seul de son espèce au milieu de plein d'autres espèces. Et effectivement, il apprend le langage des autres animaux. Donc, les animaux parlent, si je puis dire, pour vivre, parlent pas. Comme dit Montaigne, ils s'appellent à l'amour, ils communiquent pour le danger. Et même, Montaigne le reconnaît, une intelligence redoutable, dont je donne plusieurs éléments. Je dis Ibn Tufayl, je suis tout de suite passé à Montaigne. Pourquoi? Parce que Montaigne, d'une manière incroyable, dit: ce qu'il serait bon, c'est d'imaginer un être humain au milieu des animaux pour donner cours à l'intelligence partagée des deux. Et finalement, c'est Ibn Tufayl. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir s'il a eu accès à cet ouvrage, qui a été très vite traduit en latin. Eh bien, il l'a lu, mais Ibn Tufayl, précisément, montre cet individu qui, alors, tout le roman consiste à dire qu'il découvre tout ce qu'il y a à connaître de la nature uniquement par la fréquentation des autres espèces, par la fréquentation du cosmos, et aussi, comme Ibn Tufayl était médecin, de la découverte du corps humain, parce que il fait l'autopsie de la gazelle une fois qu'elle est morte, et avec cette indication importante, s'il ne fait son autopsie, c'est que pour la sauver, comme elle ne bougeait plus, eh bien, primum non nocere, d'abord ne pas nuire, il ouvre la gazelle pour essayer de voir s'il peut la sauver, et il découvre toute la tuyauterie interne des animaux et de nous-mêmes. Et vous avez un exposé médical, puis un exposé sur le cosmos, un exposé sur les... Et en quelque sorte, tout Aristote est redécouvert naturellement, sans le biais précisément, pour indiquer son universalité, sans le biais de la langue. Et aux trois quarts de l'ouvrage, il rencontre quelqu'un qui vient s'échouer sur la place, sur l'île, qui lui apprend le langage humain, et il lui dit, mais c'est extraordinaire, j'avais déjà repéré tout cela sans le langage humain. Maintenant, quand on a cet outil merveilleux, on doit pouvoir s'adresser aux autres et leur indiquer toutes les merveilles de la nature. Et l'autre qui vient dans cette île dit, non, mais ça ne marche pas. Parce que les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. Dit non, 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 mais c'est pas possible. Et voilà parti sur le continent, et effectivement, la communication échoue, et ils reviennent tous les deux dans l'île avec cette idée qu'effectivement, il faut quand même être au moins deux pour parler. On ne parle jamais à soi-même. On parle, comme dit Barthes, beaucoup de gens pensent dans ma tête et je pense dans la tête de beaucoup de gens, et c'est cela précisément la vraie pensée.
Est-ce que, il y aurait après rédaction de votre livre, est-ce que, il y aurait des choses, des thématiques ou des auteurs dont vous auriez pu parler et dont vous n'avez pas parlé, soit par manque de temps ou parce que simplement, est-ce qu'effectivement il y a d'autres œuvres que vous auriez pu aborder autour de cette thématique de la conversation?
Peut-être, mais j'ai hésité. Voilà, c'était une hésitation. C'est les dialogues de Galilée, et j'ai voulu, j'aurais voulu peut-être essayer d'extraire de ces dialogues non pas l'aspect justement joute verbale pour établir le mouvement de la Terre et la fixité du Soleil. Mais il y a trois personnages orchestrés par Galilée, et il y avait effectivement moyen probablement de voir sur ces longues journées, dans la joute verbale elle-même, les éléments qui sont propres à la conversation au-delà de l'échange des idées. Mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que ça reste quand même des thèses défendues. Et pour moi, la conversation, ce n'est pas l'idée de vraiment défendre des thèses. Cela dit, j'ai bien conscience que dans Galilée, il y a des aspects conversationnels et pas simplement des aspects d'échange des idées. Donc effectivement, là, je vous fais part de mon hésitation sur cela. En revanche, il y a par exemple, on n'a pas parlé de deux exemples qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est, compte tenu de ce que je viens de dire aussi tout à l'heure, c'est la manière dont un auteur américain, James Agee, a fait un travail extraordinaire. En 1936, c'était un simple reporter du New Yorker qui l'envoie dans l'Alabama, qui souffre, les paysans blancs souffrent complètement des suites de 1929, de la grande crise. Et il arrive en 1936 en Alabama, il voit une misère, mais une misère vraiment très très grande, et il ne peut pas pas supporter l'idée qu'il va faire le reportage comme ça, comme s'il avait vu des gens totalement extérieurs à lui et qu'il allait classer dans la catégorie paysan pauvre. Et en fait, son ouvrage, Louons maintenant les grands hommes, a été après un immense best-seller, mais sur le moment, il a passé plus d'un mois vivant avec les paysans, partageant leur vie, manière de vivre, pour arriver à nouer une conversation où, disait-il, il peut y avoir de la réciprocité magnétique. J'aime beaucoup cette expression, parce que le magnétisme, on ne l'a pas dans le texte écrit, mais arriver à une réciprocité magnétique, la conversation. Et donc, cette conversation à réciprocité magnétique, en partageant complètement leur mode de vie, même en promiscuité, il dort avec eux dans la même salle, il les entend dire bonne nuit à tout un chacun, les enfants, leurs parents, etc. Et ce témoignage émouvant sur la manière qu'ils ont de vivre, et qu'est-ce qu'il adopte ? Ni l'explication, ni la description, ni la transcription, il fait de l'énumération. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et alors parfois, on a le vertige parce que un tiroir ouvert, il va dire qu'il y a une épingle, qu'il y a un bout de fil, qu'il y a un jouet cassé en deux. Comment il est cassé en deux ? Et puis il va raconter. Et là, on entre complètement dans l'univers de ces pauvres. Et quand il parle avec eux, sa grande satisfaction, c'est qu'effectivement, ils lui disent qu'ils ont confiance en lui parce qu'il ne les a pas vus comme une catégorie de misérables, mais comme des gens qui vivent. Et son ouvrage a servi aux luttes pour les droits civiques parce qu'après, on a dit, vous savez, vous pouvez ne pas vous interdire l'émotion parce que les hommes, 1936, ces paysans blancs, il fallait garder la carapace. On souffre, mais on ne le montre pas. Lui, il est arrivé à leur faire dire leur souffrance, il est arrivé à leur faire dire leurs conditions. Dans un échange, on dit aujourd'hui plein de respect. Moi, je dis précisément de compréhension, parce qu'il a partagé jusqu'à une certaine mesure leur vie. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose que je tenais véritablement à restituer. Et non pas les oublis dans le livre puisque ça y figure, mais les oublis de notre première conversation.
Merci beaucoup Ali Ben Makhlouf, merci beaucoup à vous d'être venu nous écouter ce soir. Bonne soirée.